Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Je vous présente nos invités. Ils sont deux. Aujourd'hui, Bruno Salvet et Eric Figuère. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir Lionel,
et
bonsoir à tous.
Nous allons parler de rugby, de football, bien évidemment, un peu de MotoGP. On fera un peu de Formule 1 également. Enfin, de magazine, puisque la saison de F1 reprendra le week-end prochain. On va commencer avec le rugby, si vous le voulez bien. Alors, c'était la pause pour le tournoi des destinations, mais il y avait top 14, retour du top 14 cette semaine, Bruno Salvet. On va rappeler les résultats avec ce matin Pau qui s'est imposé 39-17 sur l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, la victoire de La Rochelle sur la pelouse de Castres 31-26, le match nul entre Lyon et Toulon 13 partout, Montpellier qui s'est imposé 41-17 sur le Racing 92, le Stade Français qui a battu Perpignan 42-21, ça ne va plus du tout à Perpignan, Eric Figuère, à Toulouse qui a battu... Oh, il faut bien chambrer un petit peu. Toulouse qui a battu Montauban 68-13 et Clermont qui a battu Bayonne 38-15. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée, Bruno? La large victoire de Toulouse, Pau qui reste au contact.
Oh, la large victoire de Toulouse était prévisible.
Hein. Face à Montauban, il n'y avait pas photo.
Ah, oui, entre le premier et le dernier du classement, d'autant plus que Toulouse, à chaque fois qu'ils ont reçu Ernest Vallon, ils ont pris le bonus offensif. Ouais. Donc on s'attendait à ce type de score. Après, il n'y a pas eu trop de surprises, hormis toutes les équipes qui ont reçu ont gagné, sauf Castres, qui a été bousculé par une surprenante équipe de La Rochelle, qui essaie de relever la tête quand même, parce que c'est vrai que les Rochelais, depuis le début de la saison, on ne les retrouvait pas à leur niveau. Donc ça fait plaisir de voir cette équipe de La Rochelle, avec des joueurs qu'on aime bien, notamment Aldrit et un gros paquet d'avants conquérants, qui est allé s'imposer chez les Castrés. C'est jamais très simple d'aller gagner à Pierre Fabre aussi, donc et puis Toulon qui a réussi à accrocher Lyon chez eux, donc avec un match nul. Donc ce sont les deux principales surprises, et puis surtout la prestation de Pau ce matin, qui revient à sa deuxième place au classement.
Ouais, ils l'ont perdu 24 heures. Hein,
ouais, ils l'ont perdu 24 heures. Ils avaient fait un bon début de saison, et là ils confirment vraiment que c'est une équipe qui malgré les absences, puisqu'il y a quand même les 2-3 quarts centres qui ont été protégés par le staff de Fabien Galthié, plus Atis Ogbe derrière, donc ils avaient quand même des joueurs clés qui étaient mis à disposition de l'équipe de France, qui n'ont pas pu évoluer ce matin, mais la prestation de Pau est vraiment étonnante, avec un ouvreur qui est de très grande classe, et vraiment une belle prestation du jeu aéré, beaucoup de mouvements, et puis qui ont surclassé vraiment l'équipe de Bordeaux, qui est Bordeaux quand même.
C'est le champion d'Europe en titre.
Champion d'Europe, finaliste de l'année dernière, et qui a eu vraiment du mal. Après, si on fait le constat, personne ne s'est imposé à Pau. Toulouse a perdu à Pau, c'était un peu normal, peut-être que Bordeaux perde là-bas. Donc c'est mérité et justifié pour cette jeune équipe de Paloise qui est vraiment intéressante et qui est maintenant à 11 points du leader, Toulouse, qui s'envole tranquillement.
Vers un nouveau titre.
Peut-être pas un nouveau titre, sur les matchs éliminatoires, notamment les demi-finales, on peut toujours avoir une surprise, mais ce championnat est vraiment resserré, puisque entre le deuxième Pau qui est à 55 points et le huitième, le Racing qui est à 45 points, on est à 10 points. Donc,
deux victoires bonifiées.
Ouais, absolument, ouais, donc c'est vraiment très, très. La lutte va être acharnée pour la place de second et donc de demi-finaliste direct, et puis pour les barrages.
Eric Figuère, vous, votre analyse de cette journée, hormis le faux pas de Perpignan, qui avait bien joué la semaine dernière contre Pau.
Bien sûr, qui avait fait un bon match, et je rappellerai d'ailleurs, on a parlé un petit peu en off, que Perpignan doit être la seule équipe à avoir battu et Toulouse et Pau, les deux premiers du classement, donc c'est à noter. Toulouse a aujourd'hui, comme l'a dit Bruno, creusé l'écart, et on les reverra plus. Alors, c'est pas synonyme forcément de titres et de boucliers de Brennus, mais en tous les cas, ça leur assure de finir premier, même si mathématiquement, bien évidemment, tout reste à faire. Pau n'a pas beaucoup d'avance sur le troisième, mais est en train de montrer qu'ils seront présents. Voilà, pour la lutte finale. C'est très resserré, comme l'a dit Bruno, exactement. Et puis derrière, on voit quand même que les Montalbanais, malheureusement pour eux, subissent au-delà des défaites, de très grosses défaites, encaissent beaucoup de points et le reste de la saison va être très longue pour eux. Pour Bayonne, très longue aussi. Heureusement pour eux, l'écart a été fait depuis longtemps avec l'USAP et Montauban. Donc ils sont tranquilles pour le maintien dans l'élite. Mais beaucoup de soucis pour eux. Et puis après, ben voilà, c'est tellement resserré que tout le monde peut prétendre à un petit strapondin dans les six. Ça va être très sympa.
Bruno, comment est-ce qu'on continue de motiver ces garçons? Montauban, ils prennent pile sur pile des grosses défaites, 68-13, même si c'est Toulouse, ça fait mal à la tête. Comment est-ce qu'on continue à motiver les garçons pour la fin de saison?
C'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que les entraîneurs doivent porter leur discours sur la fierté de porter le maillot, sur le fait d'essayer de survivre dans ce championnat. Bon, après, comme le disait Eric, hein, la fin est inéluctable. Je pense que malheureusement, ils vont descendre à leur niveau qui est la Pro D2. Et d'un autre côté, on a le Van qui sort des gros gros matchs et qu'on a envie de revoir
en top 14.
Ouais. Donc, je pense que ce sera chose faite aussi. Donc c'est vrai que il faut porter le maillot, d'autant plus que la prochaine journée, qui sera le 22 mars, Montauban accueillera Bayonne qui est mal classé aussi, qui fait autant l'année dernière était demi-finaliste, avait fait une belle saison, donc cette année a un peu de mal, en plus à limoger son entraîneur, donc c'est compliqué pour les Bayonnais. Et puis on a Perpignan aussi qui va recevoir Lyon lors de la prochaine journée, et on sait que c'est jamais facile d'aller gagner à Aimé Giral, d'autant plus que Lyon, ils ont concédé un match nul cette semaine, donc ils sont pas très bien. Donc ça, on va avoir de belles affiches lors de la prochaine journée qui aura lieu le 22, comme je vous le disais, avec un Toulon Stade Français. Alors ça, c'est vraiment concurrence directe pour les play-offs. Ouais. La Rochelle qui va recevoir Pau, donc exactement pareil. Et puis le fameux UBB qui va accueillir Toulouse, donc pour une rencontre que l'on espère haute en couleur et haute en intensité de jeu et en essais, riche en essais.
Comment est-ce qu'on peut... Eric, pardon.
Ouais, pour Montauban, on peut aussi rajouter que ça doit être effectivement difficile parce que il faut aussi leur parler un tout petit peu de la saison prochaine. Oui. Alors, on est très loin encore de la fin, mais la saison prochaine, ils seront
en Pro D2.
Et s'ils ne veulent pas, pour le coup, très mal redémarrer dans l'élan de cette très difficile année, il faut déjà qu'ils y pensent un petit peu. Alors, c'est compliqué parce qu'ils sont encore en top 14. Tu as parlé de fierté, Bruno, c'est très important. Il faut qu'ils restent sur cette idée qui est très forte pour limiter la casse, pour pouvoir continuer à jouer, pour pouvoir continuer aussi à progresser. Parce qu'il y a des jeunes joueurs, il faut que ces jeunes joueurs-là continuent à travailler. Et avec la tête baissée et les cartons qui s'accumulent, on ne progresse pas beaucoup dans ces cas-là.
Bruno, comment est-ce qu'on explique le yo-yo permanent? On n'a jamais vu depuis des saisons et des saisons une équipe qui arrive de Pro D2, qui arrive à s'imposer en top 14. Alors vraiment très rarement.
C'est malheureusement lié au
c'est,
budget.
C'est quoi? C'est un problème tout simplement de gros sous
au budget, ouais. À l'effectif. Quand on n'a pas le budget, on peut pas, entre guillemets, recruter des joueurs de haut niveau. Et puis malheureusement, je pense que pour Montauban l'année prochaine, non seulement ils vont descendre en Pro D2, mais en plus les meilleurs joueurs qui ont été repérés par les clubs de l'élite, ils vont avoir des offres intéressantes et ils vont quitter le club. Donc c'est fini le rugby de clocher où on des quels que soient les Alain Saint-Amand qui ont joué leur carrière toute leur vie dans le même club, c'est terminé.
C'est pour ça que monter sans y être préparé est souvent contre-productif. Alors ça fait toujours une montée extraordinaire pour le club, pour la ville, pour la région, oui, c'est sûr. On le voit aussi dans le football, c'est exactement pareil. Mais les années suivantes peuvent être très très compliquées, voire destructrices.
Et pourtant, je ne suis pas spécialiste du rugby, loin de là, mais quand on suit un petit peu les matchs de Pro D2, on voit du beau rugby. Enfin, c'est un ton en dessus du top 14, ça, on est d'accord. d'accord, oui, en dessous, mais c'est du bon rugby. On se dit qu'il y a des équipes. Vous parliez de Vannes. Vannes, on a presque envie de leur dire revenez en top 14, mais restez-y, quoi.
Enfin... Absolument, oui. Mais c'est tout simplement la différence de niveau de jeu entre le top 14 et la Pro D2. C'est du niveau, on va dire, national et du niveau international, parce que la plupart des effectifs en top 14 sont composés de joueurs qui sont ou qui ont été internationaux, qu'ils viennent de l'Hexagone ou d'autres pays. Mmh. Donc c'est compliqué de rivaliser avec des équipes qui ont des effectifs aussi riches, bien sûr.
Prochaine journée, vous le disiez, Bruno, c'est le 22 mars.
Hein, 22 mars, oui, il va y avoir la pause de 15 jours, puisqu'il va y avoir les deux matchs du tournoi. Donc. Avec notamment un France-Écosse dimanche et puis un France-Angleterre.
Angleterre-France.
Écosse-France, pardon. Oui, donc les Français se déplacent en Écosse et ensuite reçoivent nos meilleurs ennemis.
Exactement.
Les Anglais.
Les Anglais. Et justement, bah, tiens, on va parler de la préparation de ces deux matchs. L'Écosse, comment est-ce que Galtier prépare ce match? J'ai le sentiment que ça va bien dans cette équipe de France. Donc finalement, pas de crainte à aller chez les Écossais.
Ce qui fait la force du rugby français actuellement, c'est la richesse de son effectif. Donc ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, mais là, c'est vrai que le Galtier et puis son staff, il peut aligner deux équipes totalement différentes. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière contre les Italiens, mm-hmm. où il s'était permis de faire entrer la deuxième ligne toulousaine, excusez du peu, donc Méafou et Flamand, qui étaient sur le banc lors des rencontres précédentes. Donc c'est vrai que il a le choix, il a des joueurs qui sont en pleine forme, et puis surtout pour cette journée-là, avec la convention qui est passée avec le rugby professionnel et la Ligue nationale de rugby, il a pu préserver 19 joueurs. Donc 19 joueurs n'ont pas participé à cette dernière journée de top 14. Donc là-dedans, on a un bon nombre de Toulousains, bien sûr des Palois, et puis on a vraiment des joueurs de bon niveau, aussi bien sûr de l'UBB. Mm-hmm. Et voilà, on attend avec impatience cette rencontre en Écosse, parce que l'Écosse, il une équipe très joueuse, qui a un peu le même style de jeu que l'équipe de France. Donc ce qui va être intéressant de voir, c'est dans quel axe Galtier va jouer ses Écossais. Est-ce qu'il va s'appuyer plutôt sur un pack très puissant? Moi, si j'étais lui, c'est ce que je ferais. pour essayer de regrouper cette défense écossaise et puis après d'utiliser les largeurs, puisqu'il y a quand même une ligne de trois quarts talentueuse au niveau de cette équipe de France. Et on va voir quelle stratégie va être mise en place, et puis après ce sera surtout la stratégie, vous savez, c'est ce qu'on prépare en avance, et puis la tactique c'est la capacité de s'adapter ensuite pendant l'action, quoi. Donc, il faudra voir si les Français ont cette capacité à s'adapter face à l'Écosse et face à le chef d'orchestre qui est Finn Russell aussi, qui est un joueur talentueux. Mm-hmm. Il me tarde de voir ce duel Russell-Jalibert, en espérant que Mathieu Jalibert sera, je pense qu'il est, il a été mis au repos, sera en pleine forme, donc ce sera vraiment une belle opposition entre deux équipes joueuses, et je pense qu'on va avoir du spectacle.
Imaginons victoire en Écosse. Derrière, on joue le grand chelem face à l'Angleterre. Ça peut aller au bout pour l'équipe de France. Ça peut être victoire dans le tournoi et grand chelem.
Alors, vous connaissez le vieil adage, hein, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué.
Ça sert à rien.
Mais une victoire en Écosse, ça sous-entend la victoire dans le tournoi déjà. Donc, les Français arriveraient totalement libérés, accueilleraient totalement libérés les Anglais au Stade de France. Et puis oui, pourquoi pas rêver du grand chelem. Je pense qu'il faut passer l'étape écossaise déjà, parce qu'on a toujours eu des surprises face à cette équipe écossaise. Mais je pense que le capital confiance de cette équipe de France, il est vraiment à fond. Comme je le disais, il y a un bel effectif, il y a un système de jeu, un schéma de jeu qui commence à être pris connaissance par l'ensemble des joueurs. Donc on a vraiment une équipe très compétitive. Donc ça, voilà.
Ce qui est bien, Lionel, c'est que c'est un peu paradoxal, mais l'équipe de France va bien, mais tout n'est pas parfait. Donc ça permet aussi de garder le groupe, et le groupe au sens très élargi, parce que comme tu as dit, on est capable aujourd'hui d'aligner deux équipes pas aussi forte évidemment l'une que l'autre, mais on a vraiment une profondeur de banc qu'aucun pays en Europe n'a à part nous, et même peut-être même dans le monde, très probablement, parce que si les Suédois sont plus forts que nous, ils n'ont pas cette profondeur de banc, je pense. Mais comme je disais, tout ne va pas forcément exactement aussi bien qu'il n'y paraît, puisqu'on a 3 matchs, 3 victoires, c'est très bien, mais il y a encore des points de progression, et ça, évidemment, le staff de Galtier le sait, et donc peut garder tout son petit monde sous pression et les fait travailler, et ça, c'est plutôt intéressant.
Je me souviens, lors d'une précédente émission, c'était il y a 15 jours ou un peu plus, ou encore avant, on disait que finalement, le test important, enfin, le match important, ça allait être l'Italie, et puis là, on se dit que finalement, le match important, c'est l'Écosse. On prend match par match, mais on a le sentiment que c'est vraiment...
La réalité, c'est qu'ils sont tous importants.
Et pourtant, on le domine. Mais on le domine, ce tournoi.
On domine une fois que le match est fini et qu'on a gagné. Avant de les jouer, ces matchs, et quand on dit que ce sont des tests dans le sens large, là, on ne sait pas ce qui va se passer. On a quelques idées, on pense que, mais pour autant, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, une fois que les matchs sont gagnés, oui, on peut dire blabla, comme je dis très souvent. Mais non, tous ces matchs, en plus, sont assez différents, avec des équipes différentes, avec des potentiels différents, avec des élans pour ces pays-là différents aussi, donc c'est plutôt intéressant.
Mais sur le papier, Bruno, qui sont les plus dangereux, les Écossais ou les Anglais, sur les deux derniers matchs?
Sur le papier, les Anglais sont plus forts, mais bon, ce qu'ils nous ont malheureusement.
Ils sont plus forts, mais ils ont perdu des matchs un peu bizarrement, c'est ça, contre l'Écosse et contre l'Irlande.
Et là, ils partent sur un déplacement périlleux là, en Italie déjà. À la fin de semaine, ils vont jouer en Italie.
Et l'Écosse jouant chez eux sont finalement aussi dangereux que l'Angleterre peut l'être.
Complètement. Mais après, c'était souvent un des problèmes de l'équipe de France. Alors, je suis plutôt en rugby, mais après, je ne sais pas trop en foot comment ça se passait, mais c'était un peu cet esprit latin en se disant eux on va les battre facilement
pas la peine de jouer le match
voilà on, et ça nous a souvent porté préjudice donc mais je pense que on n'est plus dans cette culture là maintenant on est vraiment si on peut leur en mettre 30 ou 40 on leur en met le maximum et après on fera les comptes donc c'est vrai que il faut entre guillemets avoir cette faculté de tueur entre guillemets hein, dans le sens du terme où il faut vraiment achever l'adversaire et puis après on passe au match suivant mais il faut pas se dire oui bon on est supérieur à l'Écosse on va gagner largement il y a toujours des surprises et je pense que c'est aussi un respect de l'adversaire de le prendre au sérieux et de mettre le maximum de matchs
après on peut quand même comme à chaque fois que ce soit en foot ou en rugby ou dans d'autres disciplines constater que si les pays les plus forts en l'occurrence la France qui aujourd'hui domine son sujet, pas nettement, mais en tous les cas domine. Si la France joue à son niveau avec ce qu'elle a montré sur ses 3 premiers matchs du tournoi, il n'y a pas de raison d'imaginer que l'Écosse et ensuite l'Angleterre puissent les taper. Mais encore faut-il qu'ils jouent à leur niveau et que pendant ce temps-là, les équipes adverses ne surjouent pas. Voilà, et ça c'est aussi simple que ça. Hein.
Et imaginons, on gagne le tournoi et on fait le grand chelem. Est-ce que vous pensez qu'il faudra aller jouer la Coupe du Monde parce qu'on sera champion du monde forcément
La Coupe du Monde c'est autre chose.
C'est ce que vous disiez avec l'esprit un peu latin de dire c'est pas la peine d'y aller.
La Coupe du Monde on l'a jamais gagnée. Il faut pas oublier quand même que la seule équipe de l'hémisphère nord qui a gagné la Coupe du Monde ce sont l'Angleterre. Donc, il faut pas aussi mettre dans le trou l'équipe d'Angleterre hein, parce que ça reste quand même une grande nation.
N'oublions pas ce qu'elle a montré quand même là sur le
au mois d'octobre.
Sur le tournoi, un peu moins, mais ces derniers mois quand même étaient très très intéressants.
Le mois d'octobre, ils ont quand même fait vraiment d'excellents résultats. Donc il faut prendre les matchs par les uns après les autres et puis surtout rester concentré sur l'objectif final qui est de remporter ce tournoi et puis de bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde. Mais il y a tellement de facteurs d'ici là, avec les blessures.
On est prêt et encore quand même relativement loin. Donc il peut se passer beaucoup de choses.
Complètement.
On va clore cette page rugby, si vous le voulez bien. On va marquer une pause. Ça va être la mi-temps dans une semaine sportmidable. Et puis on revient d'ici quelques instants. On parlera de football, de moto, mais aussi de Formule 1. Puis il y aura bien sûr, messieurs, vos coups de cœur ou de griffes, c'est comme vous voudrez ce soir. À tout de suite.
RRB, la pub.
Oh, mais ils ont vraiment décidé de gâcher notre barbecue, hein ? Ils se sont donné le mot ou quoi ?
Relax, c'est justement pour ça que j'ai pensé à VAP, l'anti-moustique qui marche vraiment.
Ah, le silence, c'est magique.
Les tortillons aux prises anti-moustiques VAP, disponibles dès maintenant en magasin.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La deuxième mi-temps de votre semaine formidable avec Lionel Sabot.
Et nos invités Bruno Salvé et Eric Figuère. On a parlé longuement de rugby avec Top 14 et l'équipe de France qui prépare son déplacement en Écosse. On va parler de football avec un petit événement. C'était ce matin, le retour d'Antoine Comboiré sur le banc de touche du Paris FC. Un match, une victoire pour Antoine Comboiré. Ça commence bien, Bruno ?
Oui, ça commence bien pour Antoine, il le mérite. C'est vrai qu'à chaque fois, on le rappelle quand les clubs sont en très très grande difficulté, et à chaque fois, et ben, Antoine arrive à motiver ses troupes, à trouver les schémas tactiques qui font que ben, il arrive à décrocher des victoires. Donc c'est vraiment une bonne chose pour Antoine, bien sûr. Ça fait plaisir de savoir que sa première cette année, ça commence par une victoire.
Alors, on va rappeler les résultats de cette journée, c'est la 24e journée de Ligue 1, le Paris FC donc qui s'est imposé 1-0 sur Nice. On va y revenir, la victoire de l'OM 3-2 sur l'Olympique Lyonnais. Lille s'est imposé 1-0 sur Nantes, match nul 2-2 entre Lorient et Auxerre. Victoire de Brest sur la pelouse de Metz 1-0. Les Messins qui sont un peu comme les Montalbanais en rugby, enfin en football. Rennes qui s'est imposé 1-0 sur Toulouse. Monaco qui a battu Angers 2-0. Le Paris Saint-Germain qui a été emporté 1-0 sur la pelouse du Havre, et puis un match nul, 1-0 entre Strasbourg et Lens. Éric Figuère, qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? C'est la victoire de l'OM.
Il y a pas mal de choses à retenir, mais déjà pour revenir sur Antoine Comboiré, ouais. On sait que c'est un grand entraîneur, et ça toute la France le sait, donc c'est pas une surprise. Malheureusement pour lui, il est trop souvent appelé comme pompier de service, comme on dit, et il le fait très bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à chaque fois rappelé. Malheureusement, les dirigeants du football en général, pas seulement en France, ont la manette facile, le bouton sur lequel on appuie pour faire sauter leurs entraîneurs. Alors on sait que c'est aussi quelquefois salvateur.
Ça fait partie du job.
De pouvoir, à un moment donné, on ne peut pas changer 20 joueurs et on peut plus facilement changer un entraîneur. Mais nul doute qu'il réussira, comme il a très bien réussi pour ce premier match pour lui. Il va réussir à maintenir le club dans l'élite. Ce club est en train de se structurer. C'est, je pense, important qu'un deuxième club parisien, ça fait tellement longtemps qu'on le dit, mais qu'un deuxième club parisien s'inscrive dans la durée, je pense que ça va le faire, et ce serait vraiment bien que ça le fasse avec lui l'année prochaine, et peut-être, même si aujourd'hui durer 2, 3 ans, 4 ans dans le même club devient très compliqué, on aimerait bien qu'il puisse rester un petit peu plus longtemps dans ce club. Après, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? La victoire, évidemment, de l'OM ce matin. Très grosse victoire. Ça a été une victoire.
Enfin.
Soyons quand même honnêtes.
Notons sur le calendrier cette date importante.
Dans la douleur. C'est même une victoire miraculeuse, parce qu'ils ont été menés 2 fois au score. Alors, on peut gagner sans que ce soit une victoire miraculeuse, en étant menés 2 fois au score. Sauf que là, ils sont vraiment menés, ils sont dominés. Je pense qu'on peut dire quand même que Lyon leur était un peu supérieur, mais ils n'ont pas été supérieurs dans l'envie. Et ça, il faut reconnaître que l'OM, cette année, malheureusement, pas toutes les semaines, mais en tous les cas, est capable de montrer un très bon état d'esprit. Ils l'ont montré là, avec le premier match au Vélodrome d'Habib Bey, le nouvel entraîneur. Donc ça, c'est très positif. D'ailleurs, quand on voit la joie au coup de sifflet final d'Habib Bey et de son staff, ça faisait quand même plaisir.
Bon, parce que tu joues un peu ta vie quand même quand tu es nouvel entraîneur,
oui,
que tu as pris une panse la semaine.
Il a quand même quelques mois devant lui, c'est sûr. Et puis là, c'était un match important puisque Lyon était devant eux au classement, 5 points d'avance. Oui. Ils n'en ont plus que 2. Donc c'était doublement, triplement important même qu'ils arrivent à gagner. Et ils étaient plus que très mal embarqués.
Avec un excellent Pierre-Emerick Aubameyang.
Ouais, mais comme quasiment toujours. Alors certes, il vieillit, mais il est quand même constant dans ses performances. Alors après, pour marquer des buts, certes, il faut avoir du talent, mais il faut quand même être bien aidé par ses partenaires, et il n'est pas toujours bien aidé par ses partenaires, donc c'est souvent plus compliqué pour lui, comme dans d'autres équipes d'ailleurs. Mais là, on voit bien que... Mais l'OM l'a montré à très nombreuses reprises cette année, il y a beaucoup de très bonnes séquences, et qui amène pas mal de buts, puisque l'OM marque beaucoup de buts, donc c'est quand même signe de qualité. Alors après, ils ont une défense, et notamment une défense centrale en bois, on peut le dire, et c'est pas évidemment, et c'est pour ça qu'ils ont, alors pas que pour ça bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'ils sont en difficulté, parce qu'ils prennent, ils marquent beaucoup de buts, mais ils en prennent beaucoup. Et faut reconnaître que là, vraiment, le président, on peut le rappeler aussi, Longoria a été démis de ses fonctions et qui lui était quand même arrivé comme un agent de joueur, comme un acheteur, et il en a acheté, je ne sais plus combien, mais plusieurs dizaines de joueurs depuis qu'il est arrivé, depuis 5 ans, et bah il achète pas toujours bien. Alors il arrive à revendre plutôt pas trop mal. Je sais pas comment il fait, c'était un magicien. Mais par contre, pour faire rester les joueurs, pour les faire progresser, et puis pour justement rester au haut niveau, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, espérons que cet état d'esprit, cet élan qu'on a vu ce matin puisse perdurer. Voilà, on va voir. Après Paris domine son sujet. Maintenant, ils ont creusé l'écart avec Lens. On les reverra plus, c'est certain. Lens, je pense, va rester sur sa bonne dynamique, même si ils ont évidemment moins de marge de manœuvre, hein, c'est sûr. Hein. Mais derrière, ça va se jouer. Voilà, ils vont finir deuxième. Ça va se jouer entre Lyon et Marseille pour la troisième place. Et puis après, derrière, c'est plutôt serré, contrairement au rugby où les deux derniers clubs sont largués. Là, au niveau du championnat de France de Ligue 1, ils sont pas du tout largués. Alors, ça va être très compliqué pour Nantes et Metz. Hein, Auxerre. Un petit peu d'avance quand même, je pense que ça va le faire, mais les deux derniers clubs sont en grand danger quand même.
Benoît,
Oui, j'aimerais revenir sur ce que Eric disait par rapport au recrutement des joueurs par les présidents. Ça reste, je trouve ça vraiment incohérent qu'un président qui n'est pas un technicien se permette de recruter des joueurs et en plus en nombre. Donc, qui est garant du projet de jeu? Ça reste l'entraîneur. Et c'est ce qui a fait défaut, il me semble, je ne suis pas spécialiste du football, mais c'est ce qui a fait défaut au Paris Saint-Germain pendant de nombreuses années, où on recrutait des Messi, comment s'appelle le président là,
Neymar,
etc. Donc, on recrutait des grandes stars, sauf qu'il n'y avait aucune cohérence entre ces joueurs, les Mbappé, ils pouvaient pas jouer ensemble. Donc, qui de mieux que, et je pense que depuis l'arrivée du nouvel entraîneur d'Enrique, c'est lui qui choisit les joueurs et qui dit voilà, j'ai besoin de celui-là, de celui-ci et de celui-ci. Donc, c'est ce qui fait peut-être un peu défaut à l'OM cette saison. Et puis voilà. Donc,
c'est ce qui se passe dans le rugby quand on fait du recrutement, c'est l'entraîneur qui dit à son président je veux un tel, un tel, un tel.
À ma connaissance, oui. C'est le rôle aussi du sélectionneur. Imaginez Fabien Galthié, par exemple, avec son staff en équipe de France, où ce serait Florian Grill, le président de la Fédé, qui dirait, bon, il faut que tu prennes celui-là, celui-là et celui-là. C'est totalement incohérent. Donc, il faut vraiment que chacun a sa place. Le président, il est là pour présider, pour prendre des bonnes décisions, pour aller chercher des partenaires, de l'argent, et ainsi de suite. Mais les techniciens, c'est à eux de faire du recrutement et de composer l'équipe.
Malheureusement, la cellule de recrutement, alors qui est indispensable, hein, parce qu'il faut bien aller voir les joueurs, même si quelquefois ils les voient sur vidéo, mais il faut quand même se déplacer, il faut quand même avoir des agents un petit peu partout pour voir un petit peu ce qui se passe. Ça n'est pas facile, mais ils ont trop souvent, alors malheureusement aussi les cordons de la bourse font que les entraîneurs aimeraient avoir tel ou tel joueur, mais malheureusement c'est pas possible parce que souvent ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. Donc il y a des clubs qui savent recruter malin, comme on dit, sous la forme de prêts, sous la forme avec des jeunes joueurs, avec des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud, qui ne sont pas encore très connus, mais qui ont énormément de valeur. Voilà, c'est un métier, mais c'est le nombre surtout qui pose problème. Voilà.
Et puis il y a une donnée supplémentaire qui arrive dans les clubs, notamment en football, c'est la data, l'intelligence artificielle qui maintenant est capable de vous choisir un joueur. Pour un club que je connais bien, c'est Saint-Etienne, qui a recruté un Néo-Zélandais qui s'appelle Ben Hoyle. On l'a recruté avec des data, on l'avait jamais vu jouer du côté de Saint-Etienne. Il n'a pas fait une grande saison l'an dernier. Cette année, c'est un petit peu mieux.
Alors c'est vrai que c'est maintenant comme ça que ça se passe. Enfin, pas partout et pas tout le temps, heureusement, mais il faut laisser la place aux techniciens. Les techniciens savent ce dont ils ont besoin et connaissent. C'est pas si difficile que ça. Quand on regarde un match de football, un match de rugby, les connaisseurs le savent. On les regarde jouer, on sait à l'attitude d'un joueur, on sait à sa manière de courir, à sa manière de faire un contrôle et une passe pour ce qui est du football, si effectivement il y a de la qualité. Et puis après, on regarde sa motivation, on regarde son attitude véritablement, son comportement sur le terrain. Et puis ça fait beaucoup. Et puis après, quand on a aussi des entraîneurs qui tous les 6 mois changent, là aussi c'est compliqué. Si on arrive à avoir un peu de visuel et un peu de continuité, les choses se font mieux.
Je voudrais qu'on revienne sur qu'on revienne sur Antoine Camboire qui a pris les rênes du Paris FC. Alors, il aime ce genre de situation, hein, Antoine, on le sait.
Il aime. C'est surtout qu'on lui propose.
Oui, on lui propose. Et ça, non, mais il pourrait très bien dire non, ça va, proposez-moi autre chose.
Mais on
est d'accord.
Métier plus que tout.
Mais comment est-ce qu'on fait, et là je m'adresse à Bruno, puisque tu as été un peu entraîneur aussi, Bruno, comment est-ce qu'on fait quand on arrive dans une équipe qui reste que quelques dizaines de journées à jouer, qu'on n'est pas très bien au classement, comment est-ce qu'on fait pour remotiver tout le monde ?
C'est compliqué, mais il faut associer l'ensemble du groupe au projet.
Ouais.
C'est ça.
Parce on peut arriver avec un bonjour, je suis Antoine Camboire, j'ai un projet et ça va marcher. C'est comme ça que ça se passe.
Excuse-moi Bruno, avant que tu détailles un petit peu la technique. Quand je dis la technique, c'est les mots qu'on va employer sont évidemment importants. Ça, il faut savoir ce qu'on va dire. Mais après, il y a la manière surtout de le dire. Et là, c'est vraiment la qualité de l'individu, la qualité du technicien qui arrive, son aura. Voilà, c'est ce qui va faire la différence. Parce qu'on peut prononcer les mêmes mots, les mots vont être compris, ne vont pas être compris, c'est très important.
Bruno ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est surtout le fait que le groupe s'approprie le projet de jeu. Et pour ma part, moi j'étais plutôt dans un management participatif, c'est-à-dire que ce que je proposais, si je voyais que ça ne fonctionnait pas, ou j'allais voir les leaders, parce qu'il y a plusieurs leaders dans un groupe, hein. On a le leader de jeu, on a le leader de combat, notamment en rugby, donc d'aller voir les leaders et de partager ce projet avec eux en disant voilà, est-ce que ça vous va, et d'essayer d'aller le plus possible vers ce à quoi ils ont envie d'aller aussi, toujours en imposant quand même un schéma de jeu qui pense que le technicien pense être le bon par rapport à son groupe, parce que je pense que pour Antoine, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il arrive dans un groupe qu'il connaît très peu et qui a été formaté par l'équipe précédente, et d'essayer de les mobiliser et surtout de les amener vers du résultat. Donc je pense qu'il ne faut pas arriver en disant je vais tout casser et dire bon non, maintenant c'est moi le boss et vous allez faire ce que je vais vous dire, parce que là on se plante totalement. Par contre, en disant voilà, on va essayer d'aller vers cette direction, et avec les, on va demander à tous les joueurs, sinon on s'en sort pas, et voir avec les leaders si on fait fausse route ou si on fait pas fausse route. Mais surtout les associer au projet, c'est primordial.
Vous parliez des mots, Eric. Antoine Camboire s'est fait remarquer à la première conférence de presse quand un journaliste l'a appelé Antoine. Il s'est retourné en lui disant non, on m'appelle coach parce qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble. Voilà, ça a commencé très clair.
On sait qu'Antoine Camboire a beaucoup de caractère. Hein. C'est pas nouveau.
Voilà, première conférence de presse. Voilà pour le football. On va parler sport mécanique, si vous le voulez bien. Double actualité, la reprise du championnat du monde de moto. C'était le premier Grand Prix de la saison. C'était en Thaïlande ce week-end, avec la course principale qui a été remportée hier par l'Italien Marco Bezzecchi, devant les Espagnols Pedro Acosta et Raúl Fernández. Côté français, Joan Zarco s'est classé 11e, Fabio Quartararo a terminé 14e, et puis surtout, Marc Marquez pas marqué de points.
Oui, mais c'est pas.
Est-ce que c'est inquiétant, Eric Figuère ? Faut-il s'inquiéter ? Il avait tout gagné l'année dernière,
oui,
hein, sur
mais
ce Grand
Prix.
C'est
pas inquiétant du tout. D'abord parce qu'il a montré qu'il était encore très rapide ce week-end. Il n'y avait pas de souci. Il aurait fait de toutes les manières un podium s'il n'avait pas crevé. Ça fait partie de la course, certes. Mais ça, c'est juste un incident. Un incident de course. Hein, c'est rien de plus. Il avait été à la bagarre pour la course sprint. Il a été à la bagarre en tête pour la course. Donc, il n'y avait pas de souci. Bon, voilà. Ça s'est passé comme ça. Ce qui peut être juste peut-être inquiétant, c'est 4 Aprilia sur 5. Alors, c'est pas inquiétant pour Aprilia, bien sûr, mais c'est plus inquiétant pour Ducati. Alors, les Japonais, n'en parlons pas, puisqu'ils sont véritablement trop loin, ils ne reviendront plus. Mais ça, c'est ce qui peut éventuellement inquiéter. Et puis, Bezzecchi est sur 3 victoires d'affilée, 2 l'année dernière en fin de saison et une la première là. On a vu qu'il s'est bien repris, il a chuté sur la course sprint et ça l'a pas empêché de gagner la course, donc le Grand Prix. Ça, c'est quand même très intéressant. Jorge Martin est en train de revenir plutôt bien. Voilà, il est encore un petit peu loin quand même pour jouer la gagne.
Fait une très belle course hier.
Mais très belle course. Il a l'air d'être, alors, en espérant pour lui, on va pas lui porter la poisse, mais qu'il ne rechute pas parce que là, ça va vraiment.
Il y aura plus de place pour les broches.
Là, il reviendra plus, là, voilà. Mais non, ça a été un super week-end. Les Japonais, comme je disais juste avant, sont trop loin. Et malheureusement, nos Français roulent sur des machines japonaises. Donc, ça va être très compliqué. L'année va être très dure. Et pour nous qui les supportons, alors c'est encore plus dur pour eux, évidemment, que pour nous. Hein, mais ça fait de la peine. Alors,
bon, les Français n'ont pas tout perdu dans cette course parce qu'ils ont gagné la course de Tuk Tuk, qui était en ouverture du
effectivement, avec
du Grand Prix. Ils ont fait tourner pour la présentation des pilotes. Ils leur ont fait faire une course de Tuk Tuk. Et c'est Fabio Quartararo qui s'est imposé.
Et c'est super, ça nous promet une très belle saison. Bon, après, on en saura plus hein, d'ici 4 Grands Prix encore. On en saura plus sur les forces en présence, mais on a hâte déjà de voir le suivant.
Un petit mot de Formule 1, ça reprend le week-end prochain. Bruno Salvet, vous allez être devant la télé pour regarder la F1 ou non?
Franchement, j'aime bien.
Avec une nouvelle saison où on part complètement dans l'inconnu, nouvelle voiture, nouvelle réglementation, on sait pas du tout.
Ça va être intéressant. Ouais. Ça va être intéressant.
Il y a déjà des petits soucis pas le moteur, mais le taux de compression du moteur Mercedes, puisque là, les autres écuries sont montées au créneau et ont manifestement obtenu gain de cause, puisqu'il y a une manière de contrôler le taux de compression qui était contrôlé à froid et qui maintenant va être contrôlé à chaud. Et il se pourrait que les Mercedes soient en grand danger, puisque leur taux de compression chaud risque de passer au-dessus des limites. Donc on va voir ça avec intérêt. Les essais de pneus ont été annulés suite malheureusement au conflit à la guerre en Iran. Donc là aussi ça va poser problème. Et puis la nouvelle réglementation, c'est pas du tout ce que ça va donner, ça va être une grande surprise. Et moi qui ai longtemps suivi la Formule 1 et qui depuis quelques années l'a suivi de très loin, je trouvais que c'était beaucoup moins intéressant. Et là j'ai vraiment vraiment hâte que ça commence et de voir ce qui va se passer. Les voitures sont en plus magnifiques, et puis j'ai hâte de voir ce que va donner Hadjar. Ça m'interpelle beaucoup face au maître. Donc ça va être un super début de saison.
Et puis il y a l'aileron Lambada de chez Ferrari
qui tourne dans tous les sens,
c'est extraordinaire.
Un coup à l'envers, on va voir, c'est génial.
C'est Fred Vasseur qui l'a surnommé comme ça, l'aileron Lambada. Missy, on va terminer avec vos coups de cœur ou de griffes, c'est comme vous voulez. Bruno, je vous donne la parole.
Moi, pour une fois, d'habitude c'est toujours un rugbyman, mais une fois n'est pas coutume, ce sera un footballeur. Oula. Donc pour notre Antoine Comboiré, bien sûr.
Marquez la date sur le calendrier.
C'est bien Bruno qui est avec nous là.
C'est ça. Donc ouais, Antoine bien sûr, pour son retour au plus haut niveau, et puis une belle victoire à la clé. Donc voilà, je lui souhaite vraiment le meilleur pour cette saison, pour cette fin de saison, et encore un grand chapeau à notre Cougnier.
Eric.
Un très beau week-end de golf pour nos professionnels français. Parlons-en, parce que c'est malheureusement pas assez fréquent. Parlons des filles d'abord. Agathe Lenné qui a gagné à Wollongong au sud de Sydney le tournoi sur les Ladies European Tour. Sa première victoire et une très très belle victoire. La troisième place de Pauline Roussin-Bouchard sur le LPGA, sur le circuit américain. Là aussi c'est son meilleur classement, donc c'est à noter. Ça peut lui donner un bel élan et on va suivre son année avec beaucoup d'intérêt. Et puis chez les garçons, Frédéric Lacroix qui fait deuxième en Afrique du Sud et qui en plus valide son ticket et sa participation au British Open, l'Open britannique. Ce sera son premier tournoi majeur, donc une très belle deuxième place, c'est super intéressant. Et Mathieu Pavon qui fait une 17e place sur le circuit américain.
Le grand retour.
Voilà, sur le feu Honda Classic, le Cognizant aujourd'hui. Donc ça fait du bien, il a fait une belle petite semaine. Alors évidemment, il est encore très loin de pouvoir se mêler à la lutte pour la gagne, mais il est en train de revenir. Donc c'est très très positif pour la suite. Donc un très très beau week-end de golf pour nos pros.
Bon, allez, je vais y aller de mon petit coup de cœur aussi. C'est du rugby. Oui, je remonte un peu le niveau quand même. Simplement parce qu'il y avait un match entre le 15 du Pacifique et le rugby club du Mont-d'Or ce week-end. C'était au Mont-d'Or. C'est un match match amical, c'est comme on veut, avec ces deux équipes. Et au-delà du jeu, parce que la pelouse n'était pas en bon état, le ballon glissait, etc. Au-delà du jeu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de monde
si
pour suivre ce match.
Les rugbymen ne savent pas se servir de ses mains,
ce qui était vraiment bien, c'est que vraiment beaucoup de monde pour assister à cette rencontre et ça fait du bien de revoir les gens qui reviennent sur le bord des terrains. Voilà.
C'est super.
Merci. Messieurs, le 15 du Pacifique qui rencontrera la sélection calédonienne de rugby le week-end prochain, ce sera cette fois-ci à Dimbéa. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir pour ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Vous restez avec nous dans un instant, l'info revient, ce sera avec Léo Fichou. Très bonne soirée.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.